Socrate. C'est donc un fait, Simmias, reprit Socrate, que les vrais philosophes s'exercent à mourir et qu'ils sont, de tous les hommes, ceux qui ont le moins peur de la mort. Réfléchis à ceci. Si, en effet, ils sont de toute façon brouillés avec leur corps et désirent que leur âme soit seule avec elle-même, et, si d'autre part, ils ont peur et se révoltent quand ce moment arrive, n'est-ce pas une inconséquence grossière de leur part de ne point aller volontiers en un endroit où ils ont l'espoir d'obtenir, dès leur arrivée, ce dont ils ont été épris toute leur vie, et ils étaient épris de la sagesse, et d'être délivrés d'un compagnon avec lequel ils étaient brouillés. Et quoi ? On a vu beaucoup d'hommes qui, pour avoir perdu un mignon, une femme, un fils, se sont résolus d'eux-mêmes à les suivre dans l'Hadès, conduits par l'espoir d'y revoir ce qu'ils regrettaient, et de rester avec eux. Et, quand il s'agit de la sagesse, l'homme qui en est réellement épris et qui a, lui aussi, la ferme conviction qu'il ne trouvera nulle part ailleurs que dans l'Hadès une sagesse qui vaille la peine qu'on en parle, se révoltera contre la mort et n'ira pas volontiers dans l'autre monde. Il faut bien croire que si, camarade, s'il est réellement philosophe, car il aura la ferme conviction qu'il ne rencontrera nulle part la sagesse pure, sinon là-bas. Mais, s'il en est ainsi, ne serait-ce pas, comme je le disais tout à l'heure, une grossière inconséquence qu'un tel homme eût peur de la mort?
Bon, j'ai une toute petite introduction. Donc c'est un texte, je pars du texte, si ça ne vous dérange pas, comme c'est la source de la phrase. Donc c'est un texte qui est tiré d'un dialogue de Platon qui mérite d'être lu en entier, qui s'appelle le Phédon, qui met en scène Socrate, comme d'habitude, on appelle ça des dialogues socratiques, Socrate lui-même n'ayant rien écrit. Socrate a pour interlocuteur Simmias, ici, hein, c'est ça ? Alors si c'est bien Simmias, c'est un philosophe de Thèbes, on est à Athènes, là, Socrate est à Athènes, mais la civilisation grecque était organisée en grande cité, on parle toujours de Sparte, mais il y avait aussi Thèbes, qui était très important, il y avait Delphes, bien sûr, Athènes. Simmias va être un philosophe qui, comme Platon, va mettre en scène, enfin il est beaucoup moins que Platon, mais il va mettre en scène des paroles de Socrate dans des dialogues socratiques. Ce conseil philosophé, c'est apprendre à mourir, va avoir une grande postérité dans la philosophie grecque, notamment dans l'école stoïcienne, jusque chez les stoïciens tardifs, c'est-à-dire même les premiers siècles après Jésus-Christ, alors que là on est au 5e siècle après Jésus-Christ. Ça souvent on ne se le représente pas, mais la philosophie
avant
grecque.
Jésus-Christ.
J'ai dit quoi ?
Après.
Avant Jésus-Christ, 5e siècle avant Jésus-Christ, jusque 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est cette sagesse grecque est vraiment vivante pendant quasiment 1000 ans en fait, ce qui est quand même très très impressionnant. Et par exemple, dans l'école stoïcienne, dans l'école épicurienne aussi, mais notamment dans l'école stoïcienne, avec ces fameux conseils, par exemple, d'Épictète ou de Marc Aurèle, qui disent exactement dans ce sens-là, philosopher, c'est apprendre à mourir. Pour eux, la mort, c'est l'expérience de la perte, et de la perte irrémédiable, à travers le passage irréversible du temps, qui nous fait perdre tout ce à quoi on tenait, tout ce à quoi on était attaché. Et donc apprendre à mourir, c'est s'exercer à recevoir l'expérience de la perte, à vivre l'expérience de la perte en conservant son impassibilité intérieure, ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie. Donc ce thème-là va être très développé dans la philosophie stoïcienne. Maintenant, concernant la phrase elle-même, philosopher, c'est apprendre à mourir. Je pense que peut-être simplement déjà se rappeler ce que voulait dire philosopher pour les Grecs. Selon l'étymologie, c'était l'amour de la sagesse. Donc ça veut dire, si on traduit, ça veut dire que celui qui aime la sagesse doit s'exercer à mourir. Alors ça ne veut pas dire se suicider. Ça va encore mieux en le disant. Ça veut pas forcément dire non plus penser à la mort, très 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 en amont de cette mort, qui normalement se produit à un âge assez avancé, même si on peut mourir de manière prématurée, brutale. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand on pense à la phrase, par exemple, « Vous ne savez ni le jour ni l'heure », il ne s'agit pas forcément à discuter d'entendre cette phrase-là comme le fait de se préparer à la mort inévitable. Mais peut-être de se poser la question dans cette vie et au jour le jour de savoir à quoi je peux mourir, en fait. Je sais que je vais mourir de toute façon, mais à quoi je peux mourir ? Et je pense que c'est dans cette direction-là qu'ont été beaucoup de questionnements spirituels, ce qui suppose de s'interroger sur ce que veut dire mourir. Est-ce que mourir, c'est simplement avoir rendez-vous à un moment donné avec cet événement définitif qui nous fait sortir de ce monde, soit vers rien du tout, soit vers quelque chose d'autre, vers une autre existence ? Est-ce que c'est simplement ça, mourir, ou est-ce que je peux peut-être, au jour le jour, faire un travail pour, comme le disait l'émir Abdelkader, on l'a déjà cité dans ses études, mourir avant de mourir. Et là, vous avez toute la grande thématique spirituelle de l'éveil, de la question des éveils, c'est-à-dire, on peut le dire de manière très très simple, des prises de conscience. Des prises de conscience qui nous font mourir au fil de la vie, de période en période, voire de jour en jour. Des fois, les choses s'accélèrent à nos illusions, à nos attachements, etc. Donc, à quoi est-ce que je peux mourir ? Voilà. Ce que je veux dire par là, vous l'avez bien compris, c'est que il ne s'agit pas nécessairement d'entendre cette phrase « apprendre à mourir » comme le fait de se mettre en tension vers cette mort qui, de toute façon, nous attend, mais de nous poser la question de ce qui, en nous, peut-être, pourrait mourir et renaître déjà dans le cours de cette existence. Et si on dit mourir et renaître dans le cours de cette existence, et si on dit que mourir, il s'agit de mourir à des illusions ou à des attachements, c'est-à-dire de passer par des prises de conscience, des éveils, en fait, apprendre à mourir, c'est tenter de devenir plus lucide, plus conscient. Et donc, paradoxalement, apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. C'est ça peut-être qui est intéressant. Apprendre à vivre de manière moins... si je pense aux illusions, moins ignorantes, moins inconscientes, moins insouciantes. Si je pense aux attachements, je dirais moins égoïste, moins narcissique, etc. En recherche de ce qui en nous est le plus authentique. Et alors vous l'avez senti, je m'arrêtais là, dans le texte, il y a quelque chose qui est très 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 fort chez les Grecs, et en ce sens-là les Grecs ressemblent beaucoup aux Hindous, et c'est normal parce que c'est cette sagesse indo-européenne qui s'est divisée en deux, vers l'Est et vers l'Ouest. Et il y a vraiment cette idée, Platon est très très... parle souvent de ça, dit que apprendre à mourir, c'est envoyer balader le corps. Donc c'est pas du tout une sagesse qui passe par le corps. Ça peut interpeller beaucoup. Envoyer promener le corps, on s'est brouillé avec le corps. Donc c'est une sagesse véritablement, cette fois-ci je le disais dans le langage des hindous eux-mêmes, c'est vraiment une sagesse de la désidentification, en fait. Avec ce corps et avec tout ce qui du côté de notre conscience est brouillé en termes de perception et de lucidité justement, ou amoindri par le commerce avec ce corps. Voilà. Donc c'est un détachement qui est un détachement vis-à-vis du corps, et à partir de là, pour les Grecs, le détachement vis-à-vis du corps opère une clarification de conscience. Parce que plus le commerce est distendu avec le corps, plus le corps est mis de côté, plus la conscience peut être consciente simplement par elle-même, sans percevoir toute chose, je dirais au-dedans et au-dehors, sous l'influence du corps. C'est-à-dire sous l'influence non seulement des perceptions du corps, mais sous l'influence des émotions aussi. Qui sont puissantes dans des émotions, des passions, qui sont puissantes dans le corps. Voilà. Donc, je voulais simplement attirer l'attention là-dessus, sur le fait que d'une certaine façon, on corrige toujours, cette phrase n'est pas forcément à prendre au sens littéral, c'est-à-dire, je pense en plus à vous qui êtes hyper jeune, est-ce que ça aurait vraiment du sens d'apprendre à mourir, c'est-à-dire en pensant à cette mort qui peut-être vous attrapera dans 80 ans. Puis sur le fait qu'il y a peut-être un lien à faire entre apprendre à mourir et apprendre à vivre, pour ne pas entendre cette phrase de manière sinistre. Voilà.
J'ai une petite question. Et dans les reprises postérieures, quelles ont été les. Est-ce qu'il y a eu des évolutions, des courants dans les interprétations de cette phrase?
On la ramène souvent à Montaigne. Alors je sais pas, quelqu'un a fait des recherches sur cette phrase chez Montaigne? Franchement, moi je me souviens plus. Elle va perdre petit à petit son autorité dans la philosophie occidentale, parce que la philosophie occidentale s'intéresse de moins en moins à la mort au fur et à mesure qu'elle s'athéise. C'est-à-dire, elle va s'en tenir à la sagesse qui était la sagesse d'Épicure, notamment dans la lettre à Ménécée, dont je parle souvent, qui est vraiment un petit texte formidable. Comment il s'appelle ? Épicure dit ne pense pas à la mort parce que la mort n'est rien pour nous. C'est la grande formule d'Épicure. Il dit la mort n'est rien pour nous parce que quand on est là, elle n'est pas là. Et quand on n'est plus là, elle est là. C'est-à-dire, la mort est pour Épicure l'expérience impossible. Parce qu'il n'y a pas de sujet de la mort. Tu peux être sujet aussi longtemps que tu es mourant. Voilà, donc il dit que ça ne sert à rien de se poser des questions là-dessus. Après, je ne sais pas dans quel sens exactement il le disait, mais la leçon qu'on a retenue de la philosophie, c'est concentrons-nous sur la vie. D'où la fameuse phrase de Spinoza, la sagesse est une méditation de la vie et non de la mort. Voilà. Mais je ne pense pas que malgré tout on puisse dissocier les deux. Je pense qu'il y a un lien subtil entre les deux, c'est entre la méditation de la vie et la méditation de la mort. Mais à explorer.